Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Vu le titre, vous ne serez pas étonné d'apprendre que la série est adaptée du célèbre film avec Governator, Arnold Schwarzenegger himself. Elle est programmée pour la première fois sur Showtime le 7 mars 1999. En tout, elle compte 22 épisodes d'une heure. En effet, la chaîne n'a pas souhaité re-signer pour une seconde saison. Total Recall 2070 débarque en Europe francophone en septembre 1999. C'est sur Canal+, une histoire de robots, de technologies sur fond de futur. Sarah.
En effet, ça change un petit peu du film, mais je pense qu'il faut d'abord présenter la série. Alors, on a deux personnages importants dans cette série, David Hume, qui est inspecteur du CPB, et Yann Favre, qui est son coéquipier. Alors, qu'est-ce que c'est que le CPB ?
J'allais te poser la question.
Oui, hein, parce que c'est pas très clair. C'est le Centre de protection des citoyens, ou le Bureau de protection des citoyens, qui n'en fait n'enquête pas sur des crimes, puisqu'on apprend dans un des premiers épisodes, il y a 2 meurtres par an dans cette cité qui paraît plutôt grande pourtant, mais qui enquête et qui protège les humains contre les dérives de la technologie, parce que nous sommes dans un futur où la technologie est devenue toute puissante, évidemment, comme tous les futurs de science-fiction qu'on imagine, en tout cas généralement. David est marié à Olivia, qui est, on l'apprendra plus tard, est victime elle-même de la technologie, mais je ne vais pas en dire plus parce que ça gâcherait le minimum de plaisir que vous pourriez avoir à regarder cette série. Et Yann Favre, on l'apprendra rapidement, est un androïde alpha. Donc on voit que la technologie est là, même au sein du couple de héros. C'est un prototype. On ne sait pas qui l'a créé, on ne sait pas comment il était affecté au CPB. Il est, contrairement aux autres androïdes, doté de conscience. Il est donc un espèce de mélange entre robotique et ADN humain, ou conscience humaine, ou mémoire humaine, on ne sait pas très bien. Et c'est pas toujours très clair non plus la manière dont c'est présenté dans la série. C'est fait exprès d'ailleurs, parce qu'il faut garder un certain mystère. Et on se rend compte que beaucoup de monde est intéressé par cette technologie alpha, dont Total Recall, la société qui donne le nom à la série et qui avait en son temps donner le nom au film, et que ça pourrait être assez dévastateur si cette technologie tombe en de très mauvaises mains, mais on ne sait pas très bien non plus quelles sont les implications. Nous, on se rend compte très vite que Yann Favre est un androïde parce qu'il a la coupe de cheveux caractéristique et un peu droite. Il a un ton très automatique et des attitudes un peu raides. Comme ça, on se demande même comment David Hume, qui est un des meilleurs inspecteurs du CPB, ne s'est pas rendu compte plus tôt que c'était un androïde. Enfin bon, ça c'est pour l'histoire. Autour d'eux, il y a quelques personnages récurrents. J'ai déjà parlé de Olivia. Il y a aussi Olan, la médecin légiste, qui est toujours au courant de tout ce qui se passe en science, de tous les derniers implants, de toutes les dernières protéines, etc. Parfois, on a même l'impression que c'est elle qui dirige toutes les équipes de recherche du monde. Et c'est une vieille amie d'Olivia, le monde est petit, même dans le futur. On a leur supérieur, Martin Ehrenthal, qui est un peu comme le capitaine Dobby dans Starsky Hutch, à la fois intransigeant, mais qui les couvre et qui les adore beaucoup. Au-dessus de lui, il y a James Calais, qui fait partie de la Division Générale des Services. Il semble être le supérieur de tout le monde et contrôler un peu tout. Son rôle et son personnage est un peu mystérieux, et on trouve d'ailleurs quelques réponses à la fin, et je ne vais pas non plus là vous donner ces réponses-là, sinon ça n'a pas d'intérêt. Évidemment, ils se retrouvent très souvent face à des gens qui ont peu de scrupules, parce qu'ils travaillent pour des sociétés multinationales super puissantes, comme on a déjà maintenant, donc c'est pire évidemment dans 60 ans, et qui sont rassemblés en un consortium dont on ne sait pas très bien s'il a uniquement le pouvoir économique ou s'il a aussi un pouvoir politique. C'est pas toujours très clair. Et on se retrouve face à des enfants clonés, face à des gens qui ont des dons de télépathie, face à des hackers informatiques, donc on est bien dans un futur pire qu'actuel.
Donc au niveau de l'histoire, c'est un peu un fourre-tout, si je comprends bien. On a du policier, on a du technologique, on a des crimes au niveau des entreprises, on a un peu de tout. Concrètement, qu'est-ce que ça raconte ? Parce que moi, là, je suis un peu perdu.
J'imagine que tu es un peu perdu, effectivement. On a même, au-delà de ça, pour encore peut-être en ajouter à ce que tu dis, on a même aussi une certaine vision du futur. Parce que de temps en temps, on a des éléments qui nous montrent une ville sur plusieurs niveaux, avec des publicités géantes et qui parlent toutes seules, par exemple. On a aussi un climat déréglé parce que dans l'année 2020, il y a eu apparemment un problème nucléaire. On ne sait pas très bien si c'est dû à des attentats, à un accident ou à que sais-je, ou une guerre. Donc on a aussi des parties du monde qui sont contaminées, on l'apprend, avec des réfugiés qui arrivent. Donc on a, au sein de tout ce côté de conglomérat, à la fois la lutte contre des sociétés puissantes, donc quelque part conspiration, des trucs policiers, la technologie, on a encore ça en plus. Qu'est-ce que ça raconte finalement ? Il me semble surtout, parce que c'est vrai que la première saison, qui sera d'ailleurs la seule, saute un peu du coq à l'âne, mais en définitive, la manière dont on lance cette série sur Yann Farve, l'androïde, la manière dont on a conclu aussi cette saison de nouveau sur Yann, permet de penser que c'est une série avant tout sur les relations entre l'humain et les robots et les machines. Et d'ailleurs, quelques petits mots, vous savez que les androïdes, qui sont maintenant des figures régulières de la science-fiction, sont normalement inféodés à l'homme, font le sale boulot. Isaac Asimov, qui est un écrivain de science-fiction, avait écrit les trois règles de la robotique, qui sont toujours en application maintenant. Un androïde ne peut pas blesser un humain ou le laisser souffrir inutilement. Deux, un androïde doit obéir aux ordres humains, sauf si un humain donne un ordre qui est contraire à la règle numéro une. Et enfin, il se doit de protéger sa propre existence, sauf si cela est en contradiction avec les règles 1 et 2. Donc c'est simple, finalement. Mais on se retrouve aussi dans cette série face à des androïdes qui se révoltent, parce qu'ils ont été améliorés d'une manière ou d'une autre par des gens dont on ne connaît pas l'identité, et qui donc ont acquis une conscience et tuent des humains. On a aussi des robots qui sont manipulés à leur insu. On se rend compte que la société Uber Brown, qui revient très souvent à côté de la société Recall, a eu un projet échelon pour développer un androïde bêta. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, on se rend compte, dans le seul prototype qu'on a, qu'il est assez violent. Et on a Yann Farve, qui est un androïde alpha, qui est doté d'une propre conscience et donc d'un libre arbitre, je vais dire. Et donc finalement, on se retrouve face à une société où on a une division en castes, humains d'un côté, robots de l'autre, avec certains humains qui pensent que les robots deviennent tellement évolués qu'ils peuvent acquérir des droits, par exemple, qu'ils ne sont pas foncièrement méchants, et d'autres humains qui pensent que, justement, il y a un problème qui va bientôt arriver. Et là, c'est, à mon avis, l'intrigue principale qui se retrouve finalement aussi incarnée entre David et dans Yann Farve.
Parfait,
David.
Avec l'aluminium.
Le balayage laser dont ils se sont servis a brûlé toutes les preuves. On ne peut rien faire. Les empreintes, les fibres, les sécrétions, tout a disparu.
Oui, oui.
Tu confirmes, c'est pas une enquête de routine.
Non, j'ai trouvé ça dans la paroi d'un des murs. Ça ressemble à un disque de programmation.
C'est pas gros. Tu penses pouvoir l'identifier ?
On a tout le matériel nécessaire au labo.
Tu crois que ce disque peut appartenir à Recall ?
C'est pas impossible. Écoute, David, je suis désolée pour Blanchard. C'était un bon collègue.
Il était super.
Et Olivia, elle vit ça comment ?
Ça va.
J'imagine que tous ces événements ont dû lui rappeler de mauvais souvenirs. Elle s'en serait bien passée.
Beaucoup d'années ont passé depuis.
On n'efface pas ses souvenirs en 15 ans.
Oui. Deux incidents impliquant des androïdes en 24 heures.
On se voit au bureau tout à l'heure ?
Ça fait des ordres. J'aime pas beaucoup.
On tire la courte paille pour savoir qui sort son glaive le premier.
Si vous commenciez par sortir le 12 mm. J'aurais pu vous épingler dès hier soir. Il y a un scanner thermique sur le bureau des Rental.
Depuis quand vous jouez les bons samaritains ?
Je voulais voir ce que vous alliez en faire. Vraiment, j'admire votre loyauté. Vouloir venger la mort d'un collègue, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit plus.
Oui, les valeurs foutent le camp, ça n'a rien d'étonnant quand on vit H24 sous vidéosurveillance.
Ah non, vous ne pensez tout de même pas que le progrès qui a transformé notre monde en un monde meilleur a sapé les libertés individuelles ? L'androïde avec le laser, c'était celui qui a tué Blanchard ?
Je n'ai pas vu son visage.
S'agissait-il de la même arme ?
Je ne sais pas, peut-être.
Je ne crois pas que ces faits se soient produits par hasard. Comme je ne crois pas que Collector soit très franc du collier avec nous.
Les légistes ont trouvé un disque de programmation. J'ai le sentiment qu'il appartient à Recall.
Total Recall, c'était avant tout un livre écrit par Philip Dick, qui était un auteur de science-fiction assez reconnu des années 50 jusqu'aux années 70. Alors, il a reçu une expérience qu'il a appelée mystique dans l'année 1974. Il a rencontré Dieu, rien que moi, et je vous jure que c'est vrai. Hein. Là, on n'est plus dans la série, là, on est dans la réalité. Lui-même hésitait entre une explication divine et une explication psychiatrique. Ça donne déjà un peu le niveau. Donc je disais, c'est un auteur reconnu, mais quand même très naïf, ce qui fait qu'il n'a pas été riche de toute sa vie, sauf sur la fin, parce qu'en fait, il a reçu des royalties pour l'adaptation d'une de ses nouvelles, qui s'appelle Do Android Dreams of Electric Sheep, et qui en fait a été adaptée sous le film Blade Runner. Mmh. Donc là, on voit qu'on tourne toujours dans le même genre d'univers. Effectivement, on parle souvent de réalité virtuelle, de trac à l'homme, de problèmes de créateur par rapport à une œuvre, mais aussi de créateur par rapport à des formes de vie, etc. Donc tout ça se tient. Alors évidemment, ça a été repris dans le film très connu de 1990, réalisé par Paul Verhoeven, qui avait aussi réalisé Basic Instinct ou Robocop. Là aussi, on reste dans le même genre de choses. Alors comment ça commence ? Deux personnes se baladent sur Mars, si vous vous souvenez, en combinaison spatiale. Ils se baladent en amoureux. L'un des deux tombe, je pense que c'est l'homme, et son masque se brise et il est complètement défiguré par l'air de Mars.
On se souvient de ses yeux qui sortent énormément de l'orbite.
Ça fait image. En fait, c'est Doug Quaid, ça c'était un cauchemar, il se réveille, c'est Doug Quaid, un ouvrier qui est marié, tout va bien, mais il décide de se payer des vacances du souvenir à la société Rick Hall.
Et en fait, quand on est marié à Sharon Stone.
C'est ce que son collègue lui dit, ou son copain. Et en fait, il se retrouve qu'il avait des souvenirs qui avaient été totalement effacés de sa mémoire, et donc il pète un peu un plomb. Et tout le film, c'est la course de cet homme pour retrouver son identité, et aussi terminer le combat qu'il avait commencé sur Mars. Alors tu l'as dit, Schwarzenegger, dans le rôle titre, qui surjoue d'ailleurs abominablement, il a appris des choses jusque Terminator, là on se rend compte qu'il a eu des cours, mais là, dans ce film, c'est un peu difficile. Sharon Stone, dans le rôle de sa femme. Alors pour la petite anecdote, 40 versions du scénario ont été nécessaires avant de contenter tout le monde, Patrick Swayze a failli avoir le rôle titre. Tiens.
On aurait eu un peu de danse dans Total Recall, ça aurait été sympa.
Mais malgré tout, malgré le surjeu d'Arnold Schwarzenegger, le film est ultra récompensé. Et c'est vrai que finalement, ce film n'est pas si mal que ça. Du film à la série, ça commence un peu de la même manière. On est sur Mars, on a aussi un couple qui se balade en combinaison. Mais en fait, c'est un fantasme complètement virtuel qui est vécu par l'un des clients de Rick Hall. C'est aussi très mauvais dans le sens où, je ne sais pas si c'est voulu, j'en ai pas l'impression. L'homme sauve la planète Mars, évidemment, et alors il se trouve face à une plantureuse demoiselle qui lui demande si elle le remercie tout de suite ou si elle attend un peu et lui répond « tout de suite, ça me paraît un peu bien ». Donc ça te donne un peu le niveau. Donc c'est vrai que ça commence de la même manière, mais la comparaison entre le film et la série s'arrête là.
Et la série se passe avant ou après le film ?
La série, ça n'a rien à voir, justement. C'est pour ça que je dis que la comparaison s'arrête là. C'est que ça reprend une histoire qui est tout à fait autre. On a un agent secret dans le film, on a des flics dans la série. C'est une histoire de gros sous d'un homme qui veut maintenir la population qui vit sur Mars, qui est humaine, mais qui vit sur Mars dans la misère. Donc c'est une espèce de dictature et la lutte contre une dictature dans le film. Dans la série, je l'ai dit, c'est une lutte contre la technologie. Enfin, y a-t-il ou pas une lutte à mener contre la technologie ? Dans le film, on est sur Mars. Dans la série, on reste sur la Terre. On ne va jamais, quasiment jamais sur Mars. Et puis, et ça c'est un peu rigolo, Rick Hall est une société miteuse à la recherche du moindre client possible dans le film, avec un patron un peu rouleur de mécanique et véreux, si vous vous souvenez. Tandis que dans la série, Rick Hall est une société super puissante, super intrigante, et qui est complètement prospère, avec une milice privée, avec un service de sécurité, avec des propriétés privées, enfin, c'est assez faramineux. Donc au niveau du scénario, vous voyez qu'il n'y a déjà rien d'identique. Au niveau du budget aussi, on est face à deux réalités différentes, puisque dans la série, on retrouve toujours les mêmes plans extérieurs. Donc, vous voyez la façade du CPB, on a un ascenseur qui permet de relier les niveaux, parce que c'est une ville futuriste, donc sur plusieurs niveaux. On a les grandes autoroutes, on a des plans en plongée sur des grands complexes qui paraissent être des industries, mais on n'en est pas plus sûr que ça, mais c'est toujours les mêmes. Donc, en 22 épisodes, on a compris. Et on a aussi des effets spéciaux beaucoup plus cheap, évidemment. Si vous vous souvenez, le film qui a vieilli. On a toujours, par exemple, vous voyez la secrétaire de Rick Hall qui se mettait du vernis, qui n'avait qu'à toucher les ongles, c'était assez bien foutu. On avait aussi une taxi informatisée qui était assez rigolo. Et donc, c'était relativement bien fait, c'était assez intéressant aussi et assez drôle. Bon, il y avait des choses qui n'allaient pas. Hein. Par exemple, on parvient à donner une atmosphère à Mars en 30 secondes. C'est un peu, oui, ça fait un peu Dune, quoi, de l'époque, David Lynch, mais bon. Et on a aussi des gens qui meurent de chaud sur Mars, qui est quand même un petit problème, étant donné que Mars est normalement une planète beaucoup plus froide que la Terre. Bon, à part ça, ça tenait assez bien la route. La série télé a du mal quand même. On sent que le budget ne suit pas, que les idées ne suivent pas nécessairement non plus.
Je savais que Rico avait sa propre sécurité, je ne savais pas qu'il avait sa propre milice.
Ces hommes font partie d'un groupe d'intervention spéciale.
Ils étaient détenteurs d'armes meurtrières, ce qui constitue aujourd'hui un crime capital.
Je n'ai pas connaissance des armes qu'ils détiennent.
Vous êtes entré dans une propriété privée sans aucune autorité pour le faire et vous avez failli tuer deux officiers du CPP.
J'ai pleine autorité pour le faire.
Vous croyez ?
La loi sur la protection des sociétés, votée en 2055, donne aux membres du consortium certains privilèges sur la question de l'espionnage industriel.
Sir Martin ne travaille plus chez vous depuis un an.
Nous savons qu'il volait les secrets de notre société dans le but de les revendre ailleurs.
C'est drôle, j'ai lu son dossier. Votre compagnie le qualifiait comme étant un analyste programmeur compétent spécialisé dans les systèmes d'augmentation de la mémoire.
Je regrette, ce sont les implants qui étaient son terrain de prédilection. Une technique dépassée aujourd'hui.
Alors pourquoi êtes-vous inquiet qu'il revende cette technique à un concurrent si elle est dépassée aujourd'hui ? À mon avis, elle est encore assez valable pour étendre la mémoire des androïdes.
Notre société ne fabrique pas d'androïdes.
Mais vous faites les mémoires, la partie la plus importante de ces machines.
Inspecteur Hume a raison. Tout porte à croire que ces androïdes criminels sont l'objet d'une expérience qui vise à rendre plus humains vos propres androïdes.
Ceci est un mandat en bonne et due forme. Pour fouiller la cellule recherche et développement de Rico avec une attention particulière au département mémoire du labo. J'ai comme l'impression qu'on va trouver des choses intéressantes sur l'émancipation ô combien illégale des androïdes. Vous voulez nous y accompagner ou vous préférez plutôt coopérer avec le bureau de la protection des citoyens ?
Monsieur Collector ne serait pas resté assis là à vous écouter s'il n'avait pas l'intention de coopérer. Il se protégerait sagement derrière les avocats de Recall. Malgré tout, Monsieur Collector a un problème. Quelqu'un a bel et bien percé la sécurité de Recall. Et il est responsable de ce fiasco. Tant qu'il n'aura pas réglé ce grave problème de sécurité, ses avocats ne lui sauveront pas la mise et lui grilleront les entrailles sur un immense feu de joie.
Bon, parfait. Je souhaiterais jeter un œil sur le vidéodisque de surveillance.
Tiens donc. Peut-on savoir pourquoi ?
Je pourrais probablement vous aider à identifier les androïdes qui ont tué Spencer.
Tout ceci n'est pas très bien ficelé. Pourtant, au départ, je trouve que l'idée n'est pas inintéressante. Se dire qu'on va suivre des flics du futur et qui ont comme autre mission non pas de courir après les criminels, mais de protéger les humains de la technologie, je trouve que ça tient la route. Pourquoi pas ? Ajouter à ça un problème entre robots et humains, on a vu avec Terminator que ça peut tout à fait tenir la route pendant 3 films. Le problème, c'est que c'est un peu incohérent. Donc déjà, on a parlé de ces 22 épisodes et de la foule d'informations qui arrivent.
Ça part un peu dans tous les sens.
Ça part carrément dans tous les sens même. Donc on démarre sur le problème des robots, on passe à des problèmes de clonage, à des problèmes d'informatique, à des problèmes d'implants. Enfin, c'est un peu n'importe quoi pour en revenir aux robots. Donc déjà, on se dit pourquoi est-ce qu'on nous a rempli 22 épisodes avec des trucs bizarres si les deux premiers, les deux derniers, parlent uniquement des robots. Enfin, on ne termine jamais une enquête. On n'a jamais le fin mot de quoi que ce soit. Parfois, ça peut faire bien, comme quand c'est dans X-Files et qu'on sent que ça va vers quelque chose, mais ici, ça n'est jamais récupéré après. Donc effectivement, ce qui sort de là, c'est qu'on a des sociétés qui paraissent liées entre elles, comme Recall et Uber Brown. Parfois, elles paraissent aussi faire plutôt de l'espionnage industriel, donc on ne sait pas.
Donc quelque part, les éléments feuilletonesques ne reviennent pas régulièrement et en plus, sont très ténus à mettre ensemble.
Oui, voilà. On a même des choses. Donc Olivia, à un moment, a un problème d'implant et perd la mémoire. L'épisode d'après, tout va bien. Elle a retrouvé sa mémoire, elle a aucun problème, alors que dans l'épisode avant, lui disait « Vous aurez peut-être quelques petits problèmes à certains moments, etc. » Ça
là,
n'arrive jamais.
On n'en parle plus, c'est terminé.
On
en
parle
quoi.
Plus. Et donc, ça pose un problème. Déjà, on a l'impression qu'on est face à un mur, donc ils se débattent, quoi, c'est tout. Mais ça n'a pas d'intérêt narratif au-delà de ça. On se retrouve aussi face à des personnages qui n'ont qu'une épaisseur. David travaille, rentre chez lui, couche avec sa femme, parce que finalement, c'est sa seule fonction à cette fille, dort et puis retourne au travail. Et
c'est
tout
un peu
ça,
l'inspecteur d'Eric, sauf qu'il a une vie de famille. Et encore.
Mais le problème, c'est que je me demande, même si l'inspecteur d'Eric ne fait pas passer plus d'émotions et de passion que David Hume.
Ah oui, quand même, ça, à ce point-là.
Oui, ça, à ce point-là. Et c'est un personnage qui n'a pas de passion, il n'a pas de faille, il est totalement lisse. Sa première émotion, c'est quand son coéquipier est atteint d'un virus informatique, qu'on parvient à le réveiller et qu'il est content, manifestement, que tout aille bien, mais c'est surjoué d'une telle manière que c'est pas crédible du tout. C'est la scène, tu vois, où il se retourne et on voit son dos pour ne pas montrer ses émotions. Finalement, ça fait un peu penser à Charles guerre dans le film.
Mais est-ce que quelque part, quand on regarde cette série, mais c'est peut-être aller chercher un peu loin, est-ce que c'est pas dire que l'homme finalement est très proche de la machine ?
Ouh, tu y as vu quelque chose qui était bien plus intéressant que ce que moi j'ai vu. C'est vrai que ce serait une manière d'expliquer un peu ce côté pas approfondi. Mais moi, je pense que c'est plus un problème de scénariste qu'autre chose, en toute honnêteté. Et tu vois, c'est aussi des scénaristes qui décrédibilisent sans cesse leur propre univers. On crée des parents et des amis aux personnages, aux besoins, et on les oublie après. On crée des failles aux personnages, sauf à David Hume, aux besoins, puis on les oublie après, ce qui fait qu'on n'est pas face à des personnages qui paraissent réellement avoir une épaisseur, on est face à des trucs dans lesquels on met ce qu'on a besoin épisode par épisode et qu'on oublie ensuite.
Et je ne sais pas toi, mais moi je ne connais rien de plus agaçant que des personnages intéressants qui disparaissent du jour au lendemain.
Voilà. Alors en plus de ça, ces personnages n'ont pas grand-chose à dire. On est face à des dialogues remplis de phrases creuses ou de moments où on explique tout trop bien, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, ajoute à ça le jeu un peu figé, les visages inexpressifs des acteurs. Il y a d'ailleurs un journaliste sur un site américain qui dit qu'entre 1999 et 2070, on n'a pas trouvé de solution aux mauvais acteurs. C'est un peu méchant, mais ce n'est pas tout à fait faux. C'est pas faux.
Mais quelque part, est-ce qu'on ne serait pas devant une sorte de Dawson dans le futur ?
Oui, si peut-être, mais... Oui, peut-être. Par rapport à Dawson, il y a quand même une différence. Et là, c'est le site de sci-fi.com qui me dit, il y a un avantage, disent-ils, c'est qu'on est sur Showtime. C'est vrai que ça a été diffusé sur Showtime aux USA. Donc, on a une scène de sexe. Ah, ouais, sauf que moi, je trouve qu'ils sont vite contents parce que je les ai vus. Donc, ça, c'est 22 épisodes. Je trouve que le sexe est ni explicite, ni excitant, ni esthétique, ni bien amené, ni mené jusqu'au bout. Quel intérêt, donc? Je sais pas qui écrit ce site sci-fi, mais... Il doit être un peu en manque, je sais pas. Alors, par contre, je suis d'accord avec une chose, c'est qu'il y a effectivement un relent de films érotiques dans cette série, dans le sens où tu vois les films érotiques, mauvais dialogue, des décors pas crédibles, le jeu des acteurs, c'est les scénarios longs et creux, ben ça fait un peu penser à ça.
Donc c'est la version futuriste d'Aphrodisia.
Oui, voilà. Alors, vous aurez compris que pour moi, c'est pas une série totalement nécessaire à avoir dans sa vidéothèque, sauf si vous êtes un fanat des adaptations en série. Alors là, d'accord, si vous aimez bien voir... comment un livre passe au grand écran puis au petit. Moi, je vous dirais que si vous êtes fan de Total Recall, revoyez le film. Si vous êtes fan de la robotique, lisez Asimov ou revoyez Terminator. Si vous êtes un passionné des sociétés futures, des dérives que ça peut occasionner, revoyez Bienvenue à Gattaca. Et si vous aimez les effets spéciaux, regardez plutôt Le Cinquième Élément, où là aussi, on a une cité à plusieurs niveaux, mais qui au moins est bien filmée.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.